Bon les amis, faut qu'on parle. Comme tu le sais sans doute, Rafael Nadal a fait une interview à la chaîne espagnole Movistar ce lundi 18 septembre et depuis, pas mal de ses déclarations sont reprises, créant une certaine forme de bashing du Mallorquin, notamment de la part d'une partie des supporters de Novak Djokovic. Et pour le coup, je suis assez bluffé parce que je pensais pas que comprendre l'espagnol était si facile et qu'on pouvait le faire en une soirée et comme ça, devenir bilingue. Trêve de plaisanterie, nous on va reprendre nos leçons d'espagnol pour essayer de démêler le vrai du faux pour savoir si Rafael Nadal est un gros rageux ou si au contraire, il a fait preuve de fair play dans son discours. C'est parti, jingle. Bon, je t'apprends rien, tu connais le concept. T'as un entretien qui est fait dans une langue et ensuite on va isoler plein de petits bouts de cet entretien. On va le traduire dans une autre langue et surtout, on va balancer comme ça des phrases à droite à gauche sorties de leur contexte. C'est le principe même de la désinformation. Et c'est vraiment classique dans les médias qu'on se le dise. Hein. Ça touche tout le monde et c'est arrivé récemment, par exemple, avec la poignée de main entre Dan Evans et Arthur Fils et également par rapport aux déclarations de Novak Djokovic après son sacre à l'US Open où il parlait de sa nationalité, le fait qu'il n'était pas forcément reconnu ou glorifié à sa juste valeur par rapport au fait qu'il soit serbe. Je te mets les deux extraits là à l'écran pour que tu puisses juger par toi-même entre l'information qui a été transmise par certains journalistes et la vraie information derrière avec la correction. Et au final, on n'a pas du tout la même chose. Rends-toi bien compte, certains fans de Djokovic pensent que l'expulsion du Serbe à l'Open d'Australie 2022 est un complot qui a été mené par Roger Federer et Rafael Nadal. Attends. On me dit justement là dans l'oreillette que le Suisse et l'Espagnol sont à l'origine de la Covid-19. Une expérience qui aurait mal tourné sans doute. Tu me diras pas besoin d'aller jusqu'en Serbie pour voir du bashing envers l'Espagnol. Nous on a notre groupe WhatsApp avec les différents chroniqueurs. Et justement là il y a Alex qui s'en donne à cœur joie comme tu peux le voir à l'écran. D'ailleurs Josh il a deux doigts de lui donner un carton jaune. Il est temps de s'intéresser au contenu de cet entretien pour voir si le bashing est légitime ou non. Mais avant tout un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties. Tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois. Et en fonction de leur performance tu vas améliorer tes rendements. Royalties c'est exactement la même chose. Sauf que tu n'investis pas dans des entreprises, mais dans des talents. Donc, tu as différents sports qui sont représentés. Là, on va s'intéresser forcément au tennis, où tu peux retrouver Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Borna Coric, Lorenzo Musetti, Hugo Gaston, Corentin Moutet et bien d'autres. Je te laisserai aller voir tout ça. Tu vas acheter un ROI, c'est-à-dire que tu investis dans ce talent. Donc, le ROI, c'est l'équivalent d'une action en bourse. Et en fonction des performances de ce joueur, que ça soit sur le court ou également sur les réseaux sociaux, s'il fait le buzz ou non, tu as un algorithme qui te calcule tout ça. Et chaque mois, tu vas améliorer ton investissement. Donc, c'est une façon d'investir assez intéressante. Bien évidemment, on n'investit pas de l'argent que tu n'as pas. On te met un lien d'affiliation si tu passes par ce lien avec ta première transaction que tu feras. Donc en général, le ROI en moyenne au plus bas, il est à 2€. Derrière, tu peux avoir des ROI plus élevés en fonction de la popularité du talent. Bah, tu fais ta première transaction, tu vas avoir accès à un bonus. Ce bonus, ça peut être un talent qui est offert, de l'argent, également des cadeaux comme des AirPods. Donc je t'invite à aller voir tout ça sur le site de Royalties et un grand merci à eux de supporter la chaîne. Si on revient sur les déclarations de Rafael Nadal, c'est déjà appréciable que ça soit le joueur espagnol qui s'exprime par rapport à son cas, son retour, sa rééducation, comment il voit sa saison 2024, sa retraite, parce qu'on commence à en avoir marre de Tony qui chaque semaine annonce un retour de son neveu. C'était déjà le cas avant Roland Garros où il disait pas d'inquiétude, il participera au Grand Chelem Porte d'Auteuil. Là il y a quelques semaines il s'est exprimé disant qu'il jouerait pour le début de la saison 2024 avec notamment l'Open d'Australie en ligne de mire. Franchement, Tony, je pense que t'as déjà bien assez de boulot avec Félix Auger-Aliassime parce que vraiment en ce moment, c'est pas ça pour les résultats du Canadien. À vrai dire, il y a eu deux interviews, donc un pour Movistar avec Juanma Castaño et un autre avec Nacho Albarrán pour le journal AS. On va revenir un petit peu sur les différents points qui ont été abordés dans ces deux entretiens. Au niveau de la rééducation, l'opération s'est bien passée. Même s'il reste prudent, il attend de voir si les délais qu'on lui a annoncés sont respectés ou non. Donc après cette opération chirurgicale à la hanche, je le rappelle, il a pris quelques semaines de vacances, 5 semaines pour profiter de sa famille. On l'a vu pas mal en Grèce pour vraiment déconnecter où il s'est pas trop intéressé au tennis. Et il a repris depuis un entraînement léger sur le court, 3 sessions de 40 minutes par semaine, sans réel déplacement. Et derrière, c'est beaucoup de fitness pour garder une bonne musculature. Il le rappelle, tout ça, c'est un long processus. Au jour le jour, il voit pas forcément les effets, mais il sait que cumuler tout ça, à la fin, ça va finir par payer. Au niveau de ses douleurs, il en a toujours, mais elles sont beaucoup plus contrôlables. Par contre, c'est son pied qui peut de façon aléatoire, comme toujours, le gêner. Au niveau de son retour, là encore, le maître mot, c'est la prudence. Il fera le point à mi-novembre et il y a 3 scénarios qui se dégagent. Le premier, c'est un scénario pessimiste où Nadal est incapable de reprendre la compétition, ça ne s'est pas amélioré, un petit peu comme Roger Federer, on ne le reverra pas sur les courts. Un scénario plutôt réaliste où on a un Nadal qui a retrouvé des couleurs mais qu'il sait qu'il aura du mal à être compétitif pour décrocher les plus grands titres. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il choisirait son calendrier en fonction des endroits où il a envie de faire sa tournée d'adieu par rapport à des événements qui l'ont marqué. Et un troisième scénario qui est le scénario optimiste. Tout s'est bien passé. À mi-novembre, il peut reprendre son entraînement normal. Il arrive à être de nouveau compétitif et à concourir pour les plus grands titres. Et ben là, il reverra un petit peu son plan, notamment s'il peut aller glaner un autre Roland Garros. Et c'est pourquoi il y a de fortes chances que 2024 soit sa dernière saison sur le circuit. Mais comme il y a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle, au moment où il a fait ses différents entretiens, ben il ne peut pas le garantir à 100%. En tout cas, ce qui est sûr, par rapport à l'événement, il aimerait participer aux Jeux Olympiques. On sait qu'il a décroché l'or en 2008 en simple et en 2016 en double. Et il l'a dit, pourquoi pas, avec Carlos Alcaraz comme partenaire de double pour boucler un petit peu la boucle entre l'ancienne génération espagnole et la nouvelle génération que représente Carlitos. Au niveau de son après-carrière, il ne se voit pas coach à temps plein sur le circuit parce qu'il aura besoin de profiter de sa famille et également de se poser un petit peu. Par contre, il est conscient qu'il a une académie et qu'il pourrait passer quelques périodes avec des joueurs pour les conseiller. Donc ça serait de façon ponctuelle. Quand on lui demande s'il sera plus comme Tony ou Carlos Moya, il répond qu'il prendra les bonnes choses de l'un et de l'autre. Il aime copier les choses qu'il apprécie le plus. Quand on lui demande, c'est clair qu'il aimerait devenir le président de son club de cœur, le Real Madrid, mais il a conscience qu'il y a des profils qui sont plus disposés, plus à même, qui ont plus de compétences que lui pour prendre la tête du Real Madrid. Enfin, concernant sa passion du golf, il a dit que ça va restaurer un hobby et que pour lui, c'est une forme d'échappatoire. En tout cas, il parle de cette sensation unique que ça lui apporte, sa récente paternité, de quand il rentre à la maison, de voir la joie sur le visage de son enfant. On arrive à la partie qui fait jaser, qui fait débat, quand le cas Novak Djokovic est abordé dans l'entretien. Donc là, je vais citer un petit peu les réponses de l'espagnol. On a tout d'abord le journaliste qui va demander à Nadal s'il est frustré de ne pas détenir le record en Grand Chelem. Est-ce que j'aurais aimé être le joueur de tennis avec le plus grand nombre de titres en Grand Chelem? Sans aucun doute, c'est ça le sport, être le meilleur possible. Par contre, est-ce que cela me frustre? Non, on ne peut pas toujours être frustré par une chose ou une autre, la vie et ce qu'elle est, et chacun fait ce qu'il peut. Par la suite, ça se corse un petit peu, on a le journaliste qui va lui dire que c'est impossible d'être frustré quand on détient 22 titres du Grand Chelem, et c'est là que Nadal va parler de Djokovic. Je pense qu'en ce sens, Novak l'a vécu plus intensément que moi. Pour lui, je pense que cela aurait été une plus grande frustration de ne pas obtenir le record, et c'est peut-être pour cela qu'il l'a fait. Je pense qu'il a eu la capacité de pousser l'ambition au maximum. J'ai toujours été ambitieux, mais d'une ambition saine qui m'a permis de voir les choses avec du recul et sans être frustré. C'est ma façon de vivre et de ressentir les choses. Et c'est vrai que c'est un petit peu maladroit comme déclaration, et c'est pourquoi beaucoup ont dit « Ouais, Nadal, il a le seum là que Djokovic lui ait grillé la priorité avec ses 24 titres en Grand Chelem et son dernier sacre à l'US Open. » Mais je pense qu'il faut également savoir lire entre les lignes. Alors, est-ce que Djokovic a vécu sa quête plus intensément que l'espagnol? Je pense que oui, parce que le Serbe a toujours été dans l'ombre de ses deux rivaux, que ça soit Federer et Nadal, et que derrière, c'est cette rivalité justement qui a alimenté un petit peu ses ambitions et le fait de vouloir battre tous les records. D'autant plus, comme certains me le rappelaient, tout n'a pas été simple de par sa nationalité et ce qu'il a vécu dans son enfance. Et donc oui, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il a vécu les mêmes choses que l'espagnol, et justement, tout ça mis bout à bout, ça a nourri son ambition et ça lui a permis d'arriver là où il en est. Et personnellement, c'est comme ça que je l'interprète, où on a deux joueurs qui ont eu deux approches différentes, qui ont été moteurs justement dans leur carrière. Alors je vous vois venir, hein, vous allez me dire que Nadal, lui, il a tout tenté à Roland Garros 2022, quitte à se bousiller le pied pour justement avoir deux longueurs de plus que son rival serbe. Je suis pas d'accord, parce que je pense qu'il a fait tout ça justement parce que c'était Roland Garros et en aucun cas par rapport à cette course au Grand Chelem. Après, il y a ceux qui vont dire que Nadal s'est vu trop beau trop tôt avec ses 22 titres en Grand Chelem, deux longueurs d'avance sur le serbe, et qu'il pensait avoir fait le plus dur et qu'il aurait à jamais ce record, d'autant plus avec la situation vaccinale qui empêchait Novak Djokovic de rentrer sur certains continents. Là encore, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas eu de réel déclin physique de la part de Novak Djokovic, tout l'inverse, et ça sera mon dernier point concernant Rafael Nadal. Alors oui, en champion qu'il est, bien évidemment que les records, ça compte pour Nadal, et je suis persuadé que ça l'emmerde de savoir que c'est Novak Djokovic qui est devant. Par contre, est-ce qu'on peut dire que l'Espagnol a tout mis en place au millimètre près pour être le recordman en majeur? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on a eu un Nadal qui a beaucoup donné, que ça soit en exhibition, en 250, en 500, en Masters 1000, quitte derrière à liquider ses chances sur un Grand Chelem parce qu'il puisait trop dans ses réserves et que son corps tirait beaucoup trop, ce qui fait que derrière il a souvent pété en majeur. Et si on met bout à bout toutes ses blessures, ben c'est presque 5 ans de disette où l'Espagnol n'a pas pu jouer. Et rien que pour ça, je peux pas dire que l'Espagnol a été omnubilé par rapport à cette course au Grand Chelem, parce que je pense que si ça avait été le cas, il aurait fait les choses différemment, en tout cas je l'espère, par rapport à cette gestion catastrophique de son calendrier. Je vous donne raison quand même sur un point, parce que la dernière partie de sa déclaration, il parle des ambitions qui sont plus saines chez lui. Là, on ne peut pas être d'accord par rapport à ce qui s'est fait à son pied à Roland Garros 2022, où il a vraiment mis ce pied en danger pour pouvoir concourir à Roland-Garros, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est plus sain que ce que propose Novak Djokovic. Ce que l'on peut regretter dans cette prise de parole, c'est le fait qu'il n'ait pas félicité son illustre rival et qu'il ne l'ait pas encore fait. Il le justifie en disant qu'il préfère le faire après, quand ça sera un petit peu redescendu, parce que dans l'euphorie, forcément, t'es sollicité à droite à gauche, tu reçois plein de messages et ça a beaucoup moins d'impact que si tu le fais quelques semaines après pour le féliciter justement. D'ailleurs, Roger Federer ne l'a pas encore fait. Là, c'est discutable parce que Novak Djokovic, à chaque succès de l'Espagnol, il a été l'un des premiers à le féliciter. Donc là, je pense que Nadal et Federer pourraient sauter le pas. Après, c'est clair, on sait que l'Espagnol et le Suisse ont des liens particuliers qu'ils n'ont pas avec le joueur serbe. D'ailleurs, Nadal a rappelé que Roger Federer était encore l'un des seuls joueurs avec qui il était en contact. Il l'explique en disant que là, c'était une nouvelle génération qui jouait et qui n'avait pas forcément plus de contact avec eux. Des fois, il envoie quelques messages à Carlos Alcaraz de par la proximité au niveau de la nationalité entre les deux joueurs. Néanmoins, il va quand même reconnaître que Djokovic est le plus grand. Je pense que les chiffres sont des chiffres et que les statistiques sont des statistiques, et en ce sens, je pense qu'il a de meilleurs chiffres que moi, et c'est indiscutable, c'est la vérité. Le reste, ce sont des goûts, des inspirations, des sensations que l'un ou l'autre peut vous transmettre. Je pense qu'en termes de titres, Djokovic est le meilleur de l'histoire et il n'y a pas à discuter là-dessus. Il aura fallu lui tirer les vers du nez, mais Nadal a quand même fini par reconnaître que Djokovic était le plus grand de par ses chiffres, ses records qu'il est en train d'abattre un par un. Il a également un mot sur Carlos Alcaraz où il a été impressionné par rapport aux performances du jeune Espagnol, mais il n'est pas plus surpris que ça parce que, après tout, Carlos Alcaraz a déjà été numéro 1 mondial et au niveau des conseils qui lui donne, ben, c'est de continuer à progresser parce que c'est un joueur très complet, de pas se reposer sur ses acquis mais toujours viser plus haut. Il dira que Carlos Alcaraz est justement le seul rival de Novak Djokovic et j'ai vu sur les réseaux certains s'offusquer parce que Nadal n'avait pas mentionné Daniil Medvedev. Déjà, je pense que vous avez la mémoire courte. Je pense qu'avant le Medvedev-Alcaraz, beaucoup voyaient l'Espagnol donner une leçon aux Russes. Et j'aimerais rappeler que c'est vrai que Medvedev peut concurrencer Novak Djokovic sur dur, mais s'il y a un joueur qui peut concurrencer le Serbe sur n'importe quelle surface tout au long d'une année, c'est bien Carlitos. Au fait, nous c'est Games Tentle qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smasher le bouton pour t'abonner, sachant que la fin de saison promet avec le Masters 1000 de Shanghai, le Rolex Paris Masters ainsi que les ATP Finals, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques sur la petite cloche et tu seras notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors c'est l'heure du verdict, est-ce que Nadal est un gros rageux? C'est la question qu'on t'a posée en début de vidéo. Et ben avant tout, j'aimerais quand même souligner la prudence de l'Espagnol, parce que ok, l'opération s'est bien passée, mais il attend de voir si les délais sont respectés ou non, et en fonction, c'est-à-dire à mi-novembre, il fera le point pour voir quel scénario favoriser. Est-ce qu'on pourra le voir sur un court ou non? Si oui, à quel niveau? Est-ce qu'il pourrait être compétitif, glaner de nouveau des grands titres? Et là, il va mettre en place un petit peu sa roadmap, son plan, pour voir ce qu'il en est. En tout cas, sachant que la décision sera prise mi-fin novembre, ça m'étonnerait quand même qu'on le voit à l'Open d'Australie, parce que ça ferait seulement 7 semaines pour monter en intensité et se préparer pour un grand chelem. Pourquoi pas le voir plutôt en février, mars, mais bien évidemment tout ça, ça sera conditionné par rapport à ses sensations, comment il se sent, ses douleurs également, et c'est pourquoi il ne souhaite pas se projeter et dire avec certitude que 2024 sera sa dernière saison, parce que pourquoi pas il pourrait avoir une bonne surprise, et ça il faut attendre pour voir au niveau de ses sensations, et là on avance un petit peu step by step, jour après jour, pour voir comment la récupération se passe. Concernant les mots qu'il a eu envers Novak Djokovic, c'est vrai qu'on peut lui reprocher quelques maladresses. Après, je pense qu'on s'est offusqué pour pas grand chose parce qu'il parle d'intensité différente et je pense que c'est vrai que le Serbe a vraiment vécu ça de façon plus intense. Ça a permis d'alimenter justement ses ambitions et d'arriver là où il en est. Pourquoi? Ben parce qu'il a cette enfance qu'on parle souvent, également ce contexte avec sa nationalité qu'il a rappelé très récemment, qu'il aurait peut-être été glorifié de façon différente s'il n'avait pas été serbe, notamment dans les pays de l'Ouest. Et surtout, il faut pas oublier qu'il a toujours vécu dans l'ombre de ces deux illustres rivaux que sont Federer et Nadal. Et derrière, bah forcément, c'est pas la même chose. Tu traverses pas ta quête de la même façon qu'a pu la traverser un Rafael Nadal ou un Roger Federer. Ce qu'on peut vraiment lui reprocher par contre, c'est le fait qu'il parle de chez lui une ambition plus saine. Là, on peut pas être d'accord par rapport à ces injections qu'il a eues au pied à Roland Garros 2022, et forcément on attend ses félicitations par rapport au 24e titre du Grand Chelem de Novak Djokovic, mais encore une fois c'est des querelles entre fanbase où chacun va défendre son bout de gras. Alors est-ce qu'on reverra sur les cours? C'est vrai que certains voient des similitudes par rapport aux déclarations qu'avait fait Roger Federer, qu'on n'avait jamais revu en compétition, qui avait fait ses adieux à la Laver Cup en double justement avec l'Espagnol. Là c'est compliqué à savoir, on peut faire que des spéculations parce que le principal intéressé lui-même ne le sait pas. Je me rappelle de certaines rumeurs qui circulaient après son opération qui disaient que sa hanche, ça serait ok avec du temps de repos, mais par contre le gros point d'interrogation, c'est vraiment l'état de son pied qui était détruit, le fait qu'il ait fait beaucoup d'injections notamment sur le nerf de son pied, que ça avait totalement détruit son nerf et que c'est ça qui allait lui poser problème pour revenir au plus haut niveau. Affaire à suivre, bien évidemment on te tiendra informé, et toi si tu veux prolonger l'échange, je t'invite à aller voir cette vidéo très complète qu'on a fait sur Novak Djokovic.